comme un peu pour l'autre présentation, j'ai pas eu comme intention d'entrer trop dans les détails des logiciels en particulier. Pour moi, les conférences NetSquared sont un peu plus à vol d'oiseau. Donc, c'est vraiment un peu de jaser, de. Elles peuvent aussi être très pratiques, là. On pourra en faire des très pratiques. Je suis sûr que ça serait utile. On pourra le faire d'ailleurs. Mais seulement, celle que j'ai commencé à faire, c'est vraiment un peu prendre connaissance dans le fond, du concept, là, ou juste de quoi on parle, puis de réfléchir un peu à un niveau stratégique de qu'est-ce que ça veut dire pour les organisations, c'est quoi les enjeux par rapport au logiciel libre, c'est quoi les valeurs qui sont derrière ça. Je pense que comme organisme communautaire, on travaille avec des valeurs. C'est une des choses qui nous distingue des entreprises ou d'autres types d'organisations. Par contre, souvent, par manque de temps ou de connaissances, on a plus ou moins de réflexion par rapport aux outils qu'on utilise. Donc, moi, je vois ces moments-là d'échange comme des moments de réflexion sur, OK, c'est quoi les outils? Est-ce qu'on peut avoir, dans le fond, un usage de la technologie qui est en phase avec nos valeurs, puis les enjeux qu'on défend socialement, politiquement. Donc, c'est un peu ma posture là, par rapport à ça. Vous allez le voir aussi, là, je parle de logiciel libre aujourd'hui. Puis, vous allez voir, je le dis à la fin, mais je tiens quand même à le dire dès le départ, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Moi, je suis un gros partisan de l'agnosticisme dans la vie. Là. Je ne rentrerai pas dans les considérations métaphysiques, mais je veux dire, les logiciels libres, ce n'est pas la seule chose qui existe. Ce n'est pas nécessairement la meilleure chose dans tous les cas. Même chose pour les logiciels propriétaires, mais seulement aujourd'hui, je parle des logiciels libres. C'est juste important de garder un esprit ouvert puis de toujours y aller avec c'est quoi mon contexte, puis qu'est-ce qui me convient le mieux vu les paramètres. Ça va.
Parfait.
Alors, allons-y. Je me suis vraiment amusé un peu. Toi, j'imagine que peut-être de façon technique, tu n'apprendras pas grand-chose aujourd'hui, mais si jamais tu as des trucs à spécifier ou tu as des
Moi,
idées ou des.
l'utilisation des logiciels.
Non, ou en tout cas, si vous avez des informations supplémentaires, des questions, coupez-moi. C'est vraiment libre là, comme présentation. On n'est pas à l'université, je ne suis certainement pas un professeur. Alors, ha! Donc, c'est bizarre. Il y a comme un fond. Enfin. Donc, quand on pense souvent à la technologie, on a souvent les visages proéminents qui nous reviennent. Donc, probablement, les deux des figures les plus connues sont Steve Jobs puis Bill Gates, dont Steve Jobs qui est un des fondateurs de Apple, qui a développé énormément et de logiciels, mais même surtout de machines très ergonomiques et conviviales, performantes, il faut le dire. Bill Gates aussi, donc fondateur, cofondateur de Microsoft. Et donc, lui aussi là, a développé l'autre, dans le fond, le gros compétiteur de Apple. Donc, on a vraiment les deux figures qui couvrent à peu près la très, très grande majorité du paysage logiciel qu'on va utiliser. Donc, en fait, c'est les personnes qu'on connaît. Malheureusement, souvent, elles vont faire de l'ombre, ou enfin, c'est comme ça, je veux dire, c'est celles qui avaient les grosses fortunes, les grands moyens médiatiques, donc c'est eux qui se sont fait connaître, mais il y a eu, dans le fond, c'est qu'il y a eu tout un autre versant de l'informatique qui s'est développé depuis une trentaine d'années, même 40, qu'on connaît moins, mais qui est tout aussi, sinon plus intéressante à mes yeux, du moins sur certains aspects. Donc, d'autres figures qu'on connaît moins, mais qui sont vraiment tout aussi importantes dans l'histoire de l'informatique. Donc, Richard Stallman, qui est le fondateur, en fait, de l'interface GNU, qui a été un des premiers promoteurs des logiciels libres, fondateur de la Free Software Foundation. Donc, encore aujourd'hui, un avocat indéfectible des logiciels libres, des licences libres, C'est quelqu'un qui a commencé à militer dans les années 80, un codeur lui-même, qui a mis sur pied des outils. Aujourd'hui, il est plus dans la consultation. Je mets Linus Torvalds, excusez mon finlandais, à droite. Donc, le fondateur, dans le fond, le gars qui a développé le système d'exploitation Linux, qui est dans le fond, maintenant, qui existe sous plusieurs déclinaisons. Par exemple, Ubuntu, qui est une des plus connues, il y a Linux Mint, il y a Debian Linux, Fedora, il y en a un char puis une barge, en fait. Mais donc, qui est vraiment un système d'exploitation qui est complètement autre que Mac OS ou Windows, qui est entièrement libre. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a plusieurs distributions de Linux, parce que les groupes de développeurs fourchent quand il y a des chicanes, parce que dans toutes les familles, il y a toujours des chicanes. Donc, il y a des groupes fourches, puis ils vont développer des livraisons de Linux qui sont pas concurrentes. Je pense que c'est un écosystème où elles sont complémentaires. Puis, on choisit, dans le fond, la distribution de Linux qui nous convient. Pour moi, les gros avantages de Linux, c'est que, justement, il y a plusieurs distributions, dont certaines sont très légères. Juste pour faire une petite histoire personnelle, moi, mon premier poste dans le communautaire, ça a été animateur en informatique chez Communautique dans le cadre d'un projet qui s'appelait Techno-Écolo. À Techno-Écolo, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de la récupération de matériel informatique. Donc, c'était vraiment drôle. Là, j'allais avec mon collègue, on allait à l'Université de Montréal, puis on sortait les vieilles picouilles, puis on les ramenait, puis on les remontait, puis on essayait de les monter pour que les jeunes, en fait, on enseignait aux jeunes à monter les ordinateurs vraiment matériels, puis après ça, monter toute la structure logicielle par-dessus. Or, les ordinateurs qu'on avait étaient souvent vieillots, donc très peu fonctionnels avec, exemple, un Windows actuel. Par contre, en mettant une version très légère de Linux, c'est des machines qui avaient encore une durée de vie qui était tout à fait appréciable. On va souvent utiliser, par exemple, des versions légères de Linux dans les ordinateurs qu'on va envoyer dans des pays en voie de développement, par exemple en Afrique, où on va mettre de ces distributions-là pour que les jeunes là-bas puissent avoir des ordinateurs à l'école, puissent se servir d'une machine, même si c'est des machines qui, selon nos critères à nous, sont absolument pas performantes, mais elles restent fonctionnelles parce que le système d'exploitation est léger et permet une pérennité de la machine. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est vraiment non négligeable. Donc, pousse à Linus pour ça. J'ai mis Dennis Ritchie au centre, qui n'est pas un développeur de libre, mais qui par contre a développé avec un collègue dans les années 70-80, d'abord le langage C, qui est encore un langage de programmation qui est très utilisé. Puis surtout, ça commence à être un peu technique, là, même moi je ne maîtrise pas tout à fait bien ces concepts-là, mais le tronc Unix. Puis en fait, le tronc Unix est utilisé dans tous les systèmes d'exploitation qu'on utilise présentement. Donc, qu'on parle de Linux, qu'on parle de Mac OS ou qu'on parle de Windows. Donc en fait, ce gars-là a probablement eu et sûrement une des personnes qui a eu la plus grosse influence sur l'informatique depuis les années 70, puis il n'est absolument pas connu. Il est mort à peu près 3-4 jours après Steve Jobs, ce qui fait qu'on n'en a absolument pas parlé, alors que c'est vraiment un géant dans l'histoire de l'informatique. Donc, c'est juste pour parler des personnes, parce que voilà. Qu'est-ce qu'un logiciel libre? Donc, je vous ai mis une petite définition qui vient du groupe GNU. Donc, on dit que le logiciel libre désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, ça veut dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer ces logiciels. Ainsi, le logiciel libre fait référence à la liberté et non au prix. Il y a 4 libertés essentielles qu'on recouvre qui relèvent d'un logiciel libre, soit la liberté d'exécuter le programme comme vous le voulez pour n'importe quel usage. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, de le modifier pour qu'il effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez. Donc, l'accès au code source est une condition nécessaire pour qu'un logiciel puisse être dit libre. Il y a la liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin. Quand on parle d'un logiciel libre, il n'y a pas de copie pirate d'un logiciel libre, toute copie est la bienvenue. Donc, c'est vraiment une optique de bien commun, en fait, pour parler d'une notion qui est plus actuelle. puis la liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées. En faisant cela, vous donnez à toute la communauté une possibilité de profiter de vos changements. L'accès au code source est une condition nécessaire. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, un truc qui est très intéressant avec le logiciel libre, c'est qu'il y a des grandes communautés d'utilisateurs, que ce soit même pour le développement ou sinon pour l'usage tout simplement. Donc, c'est vraiment des logiciels où, quand on a un problème, on va pouvoir facilement trouver une solution sur des forums de discussion. Puis, il y a vraiment des communautés d'utilisateurs très dévouées. Des fois, je me demande si on... Ils ont beaucoup d'activités. Comme en dehors de ça, vous considérant le temps vraiment qu'ils investissent, il y a quelque chose comme une optique quasiment là, de pionnier ou de missionnaire. C'est assez impressionnant, là, vraiment le don de leur temps et de leur énergie que ces personnes-là font. En contraste, le modèle des logiciels propriétaires, j'ai juste pris la définition de Wikipédia. On dit que les limitations légales permises par le droit d'auteur qui s'appliquent aux logiciels sont choisies par les ayants droit et sont souvent encadrées par un contrat de licence d'utilisateur. Elles ont souvent, mais pas toujours, pour objectif de permettre le contrôle de la diffusion du logiciel afin de permettre la vente de licences. Un logiciel étant un objet purement numérique, sa copie est souvent aussi simple que la copie de tout autre fichier informatique. Les diffuseurs de logiciels propriétaires ont par conséquent parfois recours à des systèmes de gestion de droits numériques. Les droits des utilisateurs de logiciels propriétaires sont souvent limités à son exécution pour des usages donnés. Donc, on voit que le logiciel propriétaire, son usage est prévu de façon beaucoup plus cadrée. C'est-à-dire que la boîte qui l'a développé vraiment donne un usage restreint. On ne peut pas le modifier. On ne peut pas le copier à soi, du moins pas légalement. Puis même dans certains cas, comme on le voit, surtout depuis l'arrivée des services en info nuagique, les exemples, si on fait juste citer, par exemple, quand on utilise les services de Google, ben en utilisant le logiciel, les données qu'on va générer dans le logiciel deviennent propriété de la boîte. Donc, si par exemple, vous mettez quelque chose sur Google Docs, il faut savoir que Google est propriétaire de ce que vous avez mis dans votre Google Doc. Même chose si vous mettez en ligne des photos, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment un enjeu, même au niveau de la propriété des données, quand on utilise les services propriétaires. Donc, c'est quelque chose qu'on peut avoir à tenir en compte. Par exemple, j'ai déjà eu mon nom de vie avant, j'étais consultant, mais je travaillais beaucoup avec des groupes communautaires. Puis, il y avait exemple des groupes qui venaient en aide à des personnes qui étaient dans des situations difficiles. Puis elle me disait, ouais, mais tu sais, cet outil-là, il est super intéressant, mais moi, si je mets, exemple, les informations de mes utilisateurs en ligne comme ça, ben tu sais, c'est de l'information sensible, on a vraiment des critères d'anonymat. Donc, c'est vraiment problématique dans ce cas-là d'utiliser ces services-là dans la mesure où on n'a plus le contrôle de cette information-là, puis c'est de l'information qui est extrêmement sensible pour la vie privée des gens. Donc, c'est vraiment des considérations qu'il faut avoir en tête. Donc l'historien en moi a fait une petite ligne du temps du développement des logiciels libres. Donc, comme je l'ai dit, Richard Stallman lance en 1983 le projet GNU. Un de ses amis, je pense, ou correspondant, a inventé le terme « copyleft » en 1984 que Richard Stallman a beaucoup réutilisé depuis. Qui d'ailleurs, bon, tu sais, je saute des lignes, là, mais qui va un peu mener à la mise en place c'est une OSBL, là, Creative Commons, mais il y a des licences Creative Commons qui un peu vont enchâsser légalement le droit d'usage libre, ou enfin avec certaines restrictions. Donc, il y a 6 types de contrôle Creative Commons. Donc, on attribue dans tous les cas la paternité ou la maternité de l'ouvrage à un auteur. Donc, il peut y avoir une utilisation permise qui soit commerciale ou non commerciale. On peut permettre en fait la modification ou non de l'ouvrage. Et après ça, il y a des critères de partage. Donc, on peut demander à ce que l'œuvre soit partagée seulement avec les mêmes prescriptions de licence. Ou pas. Donc, on voit donc Linus Torvalds fonde le système d'exploitation, le CRI, en 91. Et bon, j'ai mis un autre jalon comme ça pour la création de la Mozilla Foundation en 2003. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le saviez, mais le navigateur, Mozilla Foundation, son premier logiciel, on dirait ça, un de ses premiers, ça a été le navigateur Firefox, en fait, Mozilla Firefox. Et, donc, je ne sais pas s'il y en a, tout le monde est quand même, il n'est pas de la prime jeunesse, là, je m'inclus là-dedans. Donc, si les gens se rappellent du navigateur Netscape dans les années 90, en fait, ce qui est arrivé, c'est que Netscape a fini par faire faillite et a légué son code source à la communauté. En faisant faillite, a juste ouvert son code source. Mozilla est parti de ce code source-là, puis a développé, salut Thomas, a développé le navigateur Firefox, qui est encore aujourd'hui l'un des navigateurs les plus performants. Donc, voilà pour quelques jalons du développement des logiciels libres. Donc, je mets ici quelques exemples que peut-être vous pouvez connaître. Donc, WordPress, mais j'imagine que la plupart des gens connaissent, étant donné qu'on travaille beaucoup avec WordPress. Le petit pingouin, ben, c'est Linux, évidemment. Si jamais vous voulez vous amuser, là, il y a des itérations, on en plus finir du petit pingouin sur Internet. C'est très drôle à chercher. LibreOffice, qui est une suite bureautique, en fait, qui est un peu l'équivalent de Microsoft Office, puis qui est en fait un projet qui a fourché d'avec OpenOffice, qui est un autre groupe dans le fond. Donc, il y avait OpenOffice, puis à un moment donné, il y a des gens qui n'étaient plus d'accord avec la direction que le projet prenait. Donc, ils ont fourché le projet, ça a donné LibreOffice. Bon, Firefox, évidemment. On a ensuite Inkscape, qui est un équivalent de Illustrator, en fait, pour faire du dessin vectoriel. D'ailleurs, juste considération geek comme ça, puis si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, vous pourrez m'écrire, puis j'essaierai de trouver comment j'avais fait, là, mais... Parce qu'il y a souvent, puis on va revenir là-dessus, je fais juste sauter du coq à l'âne. Mais... On a souvent des problèmes, en tout cas moi j'ai eu ces problèmes-là, dans le sens où j'avais des fichiers qui avaient été faits sur Illustrator par une prédécesseur qui avait ce logiciel-là sur sa machine. Or, il se trouve que nous, on n'a pas Illustrator au bureau. Là, j'avais comme des fichiers sources que j'avais besoin d'utiliser, mais qui étaient en format Illustrator. Il y a moyen rajouter un peu un genre de petite fonction là, en allant jouer, en rajoutant un petit truc de code dans Inkscape qui permet d'ouvrir et de travailler avec les fichiers Illustrator. Donc, ça a l'air un peu technique, mais ça peut être très utile si vous vous ramassez à devoir traiter ce type de fichier-là et que vous n'avez pas les centaines de dollars nécessaires pour acheter la licence, par exemple. Le dernier, GIMP, qui est un ami quotidien dans mon travail, puis qui est un équivalent de Photoshop, donc pour la retouche d'image. GIMP est très efficace. Donc voilà. Quelques exemples de projets libres. Wikipédia, évidemment, tout le monde connaît. Donc c'est en fait l'encyclopédie libre qui est publiée sous licence Creative Commons, qui est supportée par un moteur libre aussi qui s'appelle MediaWiki. Donc, c'est vraiment le modèle même là, de la connaissance ouverte. C'est vraiment ça, collaboratif. Évidemment, tout le monde peut contribuer à Wikipédia. Un autre projet que peut-être que vous connaissiez, moi en tout cas, j'ai été mis en contact avec ça dans les derniers mois. J'ai trouvé ça super intéressant. OpenStreetMap, c'est un peu l'équivalent de Wikipédia, mais pour les cartes. Donc, c'est vraiment en fait un équivalent de Google Maps, mais libre. Donc, vous pouvez vraiment vous créer un compte sur openstreetmap.org et vous pouvez, à partir de là, ajouter des points puis qualifier ces points-là, de dire, bon, qu'il y a tel organisme qui fait tel genre de choses. Ils ont des taxonomies très développées. Puis, il y a des applications, après ça, qui réutilisent les cartes de OpenStreetMap qui permet un peu de faire ce qu'on fait avec Google Maps, sauf que c'est en libre, c'est géré par la communauté, puis c'est pas propriété de Google. Donc c'est un projet qui est super intéressant. La gang de OpenStreetMap Montréal font des rencontres mensuelles à la Grande Bibliothèque. La Grande Bibliothèque elle-même s'est mise à contribuer à OpenStreetMap, donc il y a vraiment un bel arrimage qui est en train de se faire avec la BANQ. Puis cette gang-là. Moi, personnellement, je suis en train d'essayer de mapper tous les services communautaires du quartier sur OpenStreetMap. Puis vraiment, mon but, ça serait de faire en sorte que le plus de gens, de plus de quartiers à Montréal puissent le faire, parce que moi, personnellement, j'ai tendance à penser que on est dans le communautaire, on est justement ancré dans la communauté, puis il n'y a rien comme s'approprier nous-mêmes nos données, nos lieux, les nommer comme on veut et non pas comme une corporation multinationale comme Google peut le faire. Donc, c'était mon petit positionnement de gauchiste de la soirée. Mais donc, je vous invite vraiment là, à aller jeter un œil à ça, c'est vraiment intéressant. Alors, ça roule bien. Est-ce que vous avez des questions, Adam? Ça va? On va avoir du temps en masse pour jaser, c'est super. Donc, excusez-moi. Des avantages des logiciels libres pour les organismes. Ben, d'abord, la gratuité. Donc, évidemment, ces logiciels-là sont gratuits. Vous les trouvez sur le web, vous les téléchargez, vous les installez. C'est gratuit. Versus le modèle propriétaire qui, donc, a une licence. Dans le meilleur des cas, il y a deux meilleurs des cas. Le premier, c'est où il y a une licence pour les organismes communautaires ou à la limite des licences éducatives qui reviennent un peu moins chères. Et il y a aussi, il faut le dire, TechSoup, donc qui va permettre aux organismes, aux OBNL enregistrés d'avoir un compte chez eux puis de bénéficier de rabais substantiels sur les licences donc qu'on parle. Ça peut être des licences par rapport à Office, ça peut être des licences sur différents produits Adobe. Donc, il y a quand même quelques enjeux à ça dans la mesure où, premièrement, ce n'est pas tous les logiciels qui sont toujours disponibles. Ils ont un certain nombre de licences par année, disons. Puis après ça, il y a aussi le problème de, éventuellement, si on veut changer de version ou quoi, on est toujours pris à aller trouver la nouvelle version sur TechSoup. Si elle est disponible. Puis, il y a aussi l'enjeu de si on a échangé des fichiers parce qu'on fait du travail collaboratif avec d'autres organismes, il est possible que ces autres organismes-là n'aient pas, exemple, la dernière version de Illustrator avec laquelle nous, on travaille, ce qui crée des conflits en termes tout simplement de format de fichiers ou sinon de génération de format de fichiers. Donc, il y a ces enjeux-là. En même temps, pour donner l'autre côté de la médaille, il faut quand même dire que, exemple, Photoshop par rapport à GIMP, pour être vraiment honnête, quelqu'un qui fait du design graphique de très haut niveau va vous dire, puis va avoir raison, que Photoshop est beaucoup plus raffiné que GIMP. Par contre, moi personnellement, dans le cadre de mes tâches de chargé de communication ici, j'ai même pas les compétences de toute façon à faire pour faire des trucs tellement finis puis subtils que pour moi ça fasse une différence. Donc, il y a aussi, à un moment donné, de jauger l'usage qu'on en fait versus l'espèce de sophistication là, de l'outil. Mais donc, ça, c'est l'enjeu par rapport à ça. La propriété des données, j'en ai parlé. Donc, évidemment, quand on utilise du libre, on est absolument propriétaire des données qu'on génère. Quand on utilise des logiciels propriétaires, plus particulièrement des services, propriétaire, donc on va parler des services infonumagiques, il y a différentes clauses qu'il faut vraiment analyser quasiment à la loupe là, pour voir qu'est-ce qui est, quelle corporation s'arroge quel droit sur nos données. Mais donc c'est un enjeu à avoir. Les formats de fichiers ouverts, donc j'en ai parlé, quand on a un logiciel libre comme ça, moi c'est exemple, j'utilise OpenOffice. L'extension d'un fichier texte va être un .odt. Si l'autre personne à qui j'envoie mon fichier n'a pas le OpenOffice ou LibreOffice, peut tout simplement se le télécharger et va pouvoir ouvrir le fichier sans problème. Ce qu'il faut savoir, puis exemple par rapport à la suite bureautique, il y a vraiment un enjeu par rapport à ça. Donc, pour peu que je sois un grand défenseur de l'utilisation de LibreOffice et tout, parce que même dans LibreOffice, de toute façon, on peut enregistrer son fichier en format Word, puis donc quelqu'un qui aurait juste Office pourrait l'ouvrir quand même. Ce qu'il faut savoir, ça c'est un truc à l'usage, c'est que quand on a, par exemple, une mise en page assez complexe dans un fichier Word, si on l'ouvre en OpenOffice, ou même si c'est l'inverse, il y a un problème de compatibilité, des fois. Entre autres, les mises en page vont vraiment bouger si c'est quelque chose d'assez subtil. Les éléments peuvent bouger. Donc, ça peut vraiment être un problème aussi de transiger comme ça. Si nous, on fonctionne en LibreOffice, mais que l'autre personne est en Word, puis qu'on travaille sur un document qui est assez fin, ça peut générer des cheveux blancs en termes de gestion, de la mise en page. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est pas quelque chose qui est jamais dans un devis technique, mais c'est juste que je connais plus qu'une personne qui a eu ces problèmes-là à l'usage. Il faut le savoir. La personnalisation. Donc, on peut, avec un logiciel libre, en fait, le personnaliser comme on veut. Il y a souvent possibilité d'ajouter des extensions. WordPress est un excellent exemple de ça. Donc, on peut vraiment personnaliser le moteur comme on veut, moyennant le savoir-faire pour le faire. Donc, c'est vraiment, ça ne se fait pas tout seul non plus. Il y a quand même une courbe d'apprentissage à avoir. Dans WordPress, en général, c'est pas si mal. Quand on reste dans des trucs un peu fonctionnels, on peut personnaliser WordPress beaucoup, mais là, il faut vraiment aller se mettre les mains dans le moteur. Puis, ben, il faut savoir un peu ce qu'on fait si on veut éviter les surprises. Les backups sont un trouble obsessif compulsif tout à fait positif à avoir quand on fait ce genre de manip-là. Donc, avant de faire la manip, on backup. Puis après ça, la gestion des mises à jour. Bien évidemment, c'est sûr que quand on parle d'un logiciel de bureautique, ça ne s'applique pas trop. Mais par exemple, pour WordPress, si on gère le moteur WordPress soi-même sur son propre hébergeur, bien, il faut se charger soi-même de faire les mises à jour, ce qui n'est pas le cas, exemple, si on utilise un service en info numérique comme Wix ou d'autres là, qui vont juste faire la mise à jour pour soi. Faut dire aussi que WordPress. Moi, je vous parle de WordPress.org, mais il existe aussi WordPress.com, où là, vraiment, il y a un service qui est offert, puis où les mises à jour sont gérées par l'équipe de WordPress.com, qui est plus un versant commercial du projet. Quelques comparatifs.
Il y a une... Juste
oui?
Pour mentionner aussi que... La plupart des logiciels libres sont gratuits, mais ce n'est pas tous les logiciels libres qui sont gratuits. Il y en a qui, comme WordPress par exemple, le code est ouvert, puis c'est téléchargeable gratuitement, mais pour avoir la pleine fonctionnalité de WordPress, par exemple, certaines extensions sont payantes. Et puis WordPress lui-même est commercialisé, comme Marc a mentionné, avec WordPress.com, tu peux payer pour un service. À héberger le site sur WordPress, mais à ce moment-là, c'est payant. Donc, parfois, ça peut confondre les gens parce qu'ils disent « Ah, ils visitent WordPress.com et ils voient que c'est pas gratuit. » Donc, il y a certaines fourches de logiciels qui peuvent être gratuits, d'autres qui ne le sont pas. Il y a certaines extensions qui sont payantes, certaines qui sont gratuites. Donc, en principe, tu peux créer un site web sur WordPress gratuitement. Mais avec en prenant en compte les risques associés à ça, d'utiliser des extensions qui sont peut-être moins bien soutenues, qui ont moins d'argent qui a été investi dans l'extension que d'autres.
Moi, j'ai mon expérience avec WordPress. Ici, c'est complètement libre. Et mon frère ouvre ma page, mon blog, il y a des mots qui vont apparaître, soulignés, et en cliquant, ça mène sur une publicité. Alors, pour éviter que mes lecteurs soient inondés de publicité, en cliquant sur des mots qui apparaissent à gauche à droite, alors je paye une contribution de 99 $ par année. Et là, je suis certain qu'il n'y a aucune publicité.
C'est WordPress ou c'est...
C'est WordPress. Alors, pour éviter que le lecteur de mon blog soit inondé de publicité, moi, je paye un montant par année et puis ça devient... Il n'y a plus de publicité.
Mais juste pour bien comprendre, votre blog, est-ce que vous l'hébergez vous-même oui. sur votre propre serveur ou c'est sur WordPress.com qui est hébergé?
Je ne me suis jamais posé la question.
OK.
Moi, j'imaginerais que ce serait sur Request.com. Ça a l'air d'un risque de voler de service que si tu payes 100$ par année, ben, ils enlèvent des publicités. C'est sûr que c'est en partie, il ne faut pas se mentir, hein, c'est une grosse partie des revenus des compagnies web, tech, c'est souvent ça vient de la publicité. Google dans le Facebook aussi.
Ouais.
Donc, probablement, c'est
mon expérience.
Il y a plusieurs enjeux, là, juste pour parler de WordPress, c'est que, comme Parker dit, il y a des extensions qui sont gratuites. Il y en a qui sont maintenues à jour de façon assez rigoureuse, d'autres moins. Donc, il faut savoir que quand on fait, exemple, c'est quand il y a des mises à jour qui sont à faire, si on utilise une extension qui n'a pas été mise à jour depuis un certain temps, qui peut quand même, malgré tout, être fonctionnelle, il faut savoir qu'il y a des failles de sécurité qui peuvent apparaître aussi là-dedans. Donc, il y a vraiment comme un ensemble de paramètres à dire, OK, on gère le truc soi-même, mais il faut gérer les mises à jour, faut s'assurer que les plugins, les thèmes sont mis à jour aussi pour pallier aux failles de sécurité potentielles. Donc, il y a vraiment comme tout un enjeu. Non, j'ai même pas une slide là-dessus, mais on peut parler comme du modèle économique du libre parce que comme on ne paye pas pour le logiciel, donc les gens qui vont travailler avec sont pas payés, on reçoit pas d'argent, il n'y a pas de transaction qui est faite. L'argent de ces gens-là va être fait en livraison de services, donc en support de mise à jour, de configuration. Donc c'est vraiment, faut avoir en tête que c'est pas nécessairement gratuit d'utiliser du libre, particulièrement si on veut quelque chose qui est très bien configuré, qui est très bien paramétré. Il va souvent y avoir de la main-d'œuvre à avoir là, puis que ce soit de notre propre temps à nous ou si on paye quelqu'un de l'externe pour le faire. Donc, il y a vraiment quand même, il y a une maintenance qui est à faire, puis c'est là où se situe le modèle économique du libre. Mais ce n'est pas sur le droit d'auteur par rapport au logiciel. C'est vraiment ça comme la nuance à avoir. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on utilise quelque chose de libre, exemple WordPress, c'est complètement gratuit. Ne serait-ce que de notre propre temps à nous. Je veux dire, le temps qu'on pense à faire ça, on pourrait le penser à faire autre chose. Le temps, c'est de l'argent, dirait certains. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions?
Je
ne
connais pas très bien WordPress, mais j'avais quelques questionnements. Recherche rapide, puis je crois comprendre qu'il faut se renseigner WordPress logiciel, puis WordPress le service d'hébergement de site web.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Donc, WordPress d'hébergement, c'est WordPress.com. Mm-hmm. Puis le logiciel, seulement vraiment le code du logiciel, on peut le télécharger sur WordPress.org.
J'avais même pas idée qu'il y avait deux choses.
Oui.
Ok.
Autre intervention.
Marc, as-tu mentionné KeePass ou Audacity comme logiciel libre, comme j'ai raté la première demande?
Ben, je rentre pas, j'arrive là dans les comparatifs. En fait, j'ai même pas pris les logiciels audio. Mais donc ça, si vous allez, c'est une des listes qui est disponible, quand même très bien mise à jour là, sur Wikipédia. Donc vraiment les comparatifs. Entre les correspondances plutôt entre logiciels libres puis logiciels propriétaires. Puis là, vous avez vraiment comme tous les types de logiciels possibles qui sont distingués comme ça. Donc, par exemple, les logiciels propriétaires iWork, Office, StarOffice, Lotus Symphony, Microsoft Office. Puis vous voyez après ça les logiciels libres qu'on retrouve sur les différentes plateformes. Un truc qui était intéressant aussi avec les logiciels libres, que je n'ai pas dit, c'est que c'est interopérable d'une plateforme à l'autre. Donc souvent, c'est un peu moins le cas, parce qu'entre autres, Mac a commencé à plus s'arrimer là, avec ce qui se fait sur PC. Mais donc Mac a ses propres outils qui sont vraiment compris dans le package Mac. Microsoft a développé ses autres outils, puis il n'y a pas nécessairement les mêmes outils d'une plateforme à l'autre. En libre, typiquement, les logiciels sont développés sur PC, sur Mac puis sur Linux aussi. Donc ça, c'est vraiment une des forces des logiciels libres. Donc vous voyez, bon, en traitement de texte, OOO, ça c'est OpenOffice. Puis après ça, LibO, c'est LibreOffice. Donc dont je parlais, c'est deux suites bureautiques libres. Puis il y en a vraiment plein là, que je connais pas nécessairement. Donc c'est ça aussi, je vous invite, là, si vous voulez un type de logiciel particulier, à aller voir. Je vais vous donner d'autres références tantôt. Pardon, mais la liste de Wikipédia est bien quand même. Création de présentation, la même chose. On a vraiment, vraiment la suite LibreOffice reproduit très bien là, la suite Microsoft Office. Puis, pour ce qui est gestion de projet, il y a énormément de choses qui existent aussi. Il y en a vraiment pour tout. Là, c'est un monde. Il faut juste se lancer puis aller fouiller là-dedans. On pourra regarder tantôt si vous voulez.
Projet, pour ma part, ça m'intéresse. Je ne connais pas et puis j'aurais des besoins. Donc, si tu pourras faire une petite parenthèse là-dessus.
En gestion de projet?
Oui.
Ouais, ben tu vois, tu en as ici. Tu as projet libre, dot project, GAN project. Je ne les connais pas. Je ne les ai pas essayés tous. Ben, pas vraiment aucun, en fait. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est rendu là, c'est de l'essai-erreur. Là. C'est, ben, je veux dire, en même temps, de toute façon, on va y venir. Là, c'est, même quand on cherche un logiciel propriétaire, c'est de l'essai-erreur. Je veux dire, il y a toujours. Il faut vraiment, peu importe c'est quoi notre besoin, okay, puis qu'on va y aller dans le libre ou dans le propriétaire, ou même si on n'a pas d'idée par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment, je vais y revenir, là, mais de vraiment se ramener à nos besoins. Okay, de ne pas se tiquer sur une solution en disant « Ah, ça c'est vraiment le fun, faut vraiment que je l'essaye. » Ben oui, mais est-ce que ça correspond vraiment à mon besoin? Ou si je fais juste buzzer sur un truc qui a l'air joli et tout. Donc moi, je suis assez comme conservateur pour ça. C'est, on vient à notre besoin, on se fait une liste de critères, puis après ça, on essaye des solutions, puis on les compare de façon très rigoureuse, rationnelle, grise. Les services libres qui existent, Framasoft, c'est vraiment la référence dans le monde francophone. Je suis resté dans les liens francophones, vous pourriez en trouver dans le milieu anglophone aussi. Donc, c'est la liste francophone la plus exhaustive de logiciels libres. Là. C'est vraiment eux qui portent le flambeau du libre en France. Puis, devant la prolifération des outils d'info nuagiques, s'est fait au cours des dernières années. En fait, comme exemple, les Dropbox, Evernote, Google Docs de ce monde, ils ont mis sur pied une gamme d'outils libres en info nuagique collaboratif que vous pouvez utiliser. Donc, on les appelle, c'est des collectifs des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc, c'est des chatons qu'on appelle. Et donc, je vous invite à aller voir, là, il y a vraiment, là, juste sur le site de Framasoft, là, vous allez voir dans le menu à droite, là, il y a une liste assez impressionnante des différents services qui sont accessibles de façon libre et gratuite. Il y a, moi, j'aimerais beaucoup vous parler, puis peut-être que je vais réussir à accrocher Mathieu de facile. C'est un petit monde, hein, le monde des geeks au Québec. Là, tu passes comme une couple de mois, puis tu connais tout le monde par son prénom. C'est vraiment. Donc, Mathieu Gauthier-Pilote de Facile, qui est vraiment juste un pionnier, porte-étendard, défricheur du libre au Québec. Donc, Facile, c'est un peu comme le regroupement des gens qui font la promotion de l'appropriation d'informatique libre. Un des trucs que Facile fait, c'est à chaque élection de. Faire une charte du libre, donc pour vraiment demander aux gens d'aller voir leurs députés, d'aller voir les candidats, puis de leur demander de s'engager à utiliser les logiciels libres s'ils sont au pouvoir dans les différents services publics. C'est un scandale. Là, je ne peux pas rentrer dans trop de trucs de politique, mais je veux dire, juste le gouvernement du Québec, ça coûte à peu près 700 millions par année pour renouveler ses licences Microsoft. C'est de l'argent qui pourrait être mis dans le développement de solutions libres, durables, avec une expertise construite à l'interne, puis qui serait comme complètement autonome. Quand on sait que l'Allemagne fonctionne en libre, la Russie, on se dit, bon, ça pourrait fonctionner. Excuse-moi.
Le Brésil.
Tu sais, comme je pense qu'on pourrait le faire au Québec aussi.
Mais dans cet univers libre, bon, les virus sont-ils plus fréquents ou moins fréquents? Ou qu'est-ce qui est le danger d'utilisation du monde libre? Est-ce que c'est plus risqué que...
Ben, le virus, par définition, va s'attaquer typiquement au système d'exploitation. Donc, il y a comme, a priori, même si on utilise une messagerie qui est libre, il peut y avoir autant de spam, de courriels problématiques qui peuvent atteindre le noyau. Exemple sur WordPress, justement, comme le code est ouvert, puis qu'il y a à peu près quasiment le tiers du web qui est construit sur WordPress, ben, il y a beaucoup d'attaques de sécurité sur WordPress. Donc, il y a une vigilance à avoir par rapport à ça. Par exemple, si on regarde, c'est sûr que longtemps, le gros des virus était construit, était bâti pour attaquer Windows. Là, ça s'en va plus sur Mac. Moi, personnellement, à la maison, j'utilise Linux, puis c'est comme un non-lieu, là, les virus sur Linux, ou presque. Puis, de toute façon, j'imagine le pirate qui ferait un virus sur Linux, puis c'est, sa vie est finie, parce qu'il y a comme tous les hackers de gauche qui vont se mettre sur son cas, puis c'est des gens revanchards, tu sais, puis ils savent comment faire. Mais donc, c'est sûr qu'on est quand même pris dans ce milieu-là.
Mais les services de protection, là, les antivirus, sont-ils aussi efficaces avec les services libres que...
Ben, a priori, un antivirus qui va fonctionner sur Windows, Mac ou Linux, c'est des applications différentes, en fait. D'ailleurs, il existe des antivirus libres, je ne suis pas certain. Mais l'antivirus va faire sa job, puis qu'on utilise un logiciel libre à côté pour la bureautique, pour le graphisme, ça ne fait pas vraiment de différence, okay. En fait.
Les virus ne vont pas s'attaquer spécifiquement au logiciel libre. Les logiciels libres ne sont pas plus forts ou plus faibles. C'est que les virus, généralement, sont conçus pour attaquer au logiciel ou à la plateforme qui est la plus courante. Parce qu'ils vont infecter le plus grand nombre de plateformes ou de logiciels. Donc, plus souvent, c'est Windows ou WordPress. Parce que c'est la plateforme, une des plateformes les plus populaires en ce moment. Tu vas trouver beaucoup de virus, beaucoup de failles qui vont attaquer ces plateformes-là. Mais plus le logiciel moins le logiciel est connu, moins que tu vas avoir un problème.
Et quel est l'avantage des gens qui créent ces virus-là? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ça vient d'où ces virus-là? Ça vient de quelque part? Quelqu'un doit chercher un profit avec ça?
C'est un risque qui vient des concepteurs d'antivirus eux-mêmes.
Ouais, c'est un vaste sujet, vraiment. Je veux dire, il y a des virus qui sont conçus spécifiquement pour attaquer certaines institutions ou certains gens. Je vais donner un cas particulier. Je n'avais pas fait la mise à jour du site web de la compagnie de mon oncle, là, que je gérais comme ça pendant un temps. Puis, je pense que juste avant ou après qu'il y ait l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, ou sinon il y avait eu des représailles comme de l'Occident par rapport à l'Ukraine, il y a eu une vague d'attaques en provenance de la Russie sur juste des sites web en général, comme en Amérique du Nord, je sais, peut-être en Europe aussi. Quand j'ai retracé l'adresse IP de la faille de sécurité dans le site web, je me suis rendu compte que c'était une adresse IP de Moscou. Fait qu'on est vraiment rendu où on sait en fait pertinemment que des pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis sont rendus avec des groupes de hackers, puis il y a vraiment des attaques ciblées sur des économies qui sont faites juste dans un point de vue, dans une optique de déstabilisation.
Non, il y a une guerre.
Ah oui, guerre. Oui. Ben oui, absolument. La plupart des armées sont rendues avec des divisions informatiques.
Yeah. Des sites web qui permettent de suivre en direct les attaques qui se passent quotidiennement. Je sais plus le nom. Tu vois un petit peu l'interface que ça, c'est impressionnant. Hein. On voit une carte du monde et puis on voit vraiment une représentation des attaques qui sont en direct. Donc, ça donne l'impression que c'est un beau feu d'artifice qui ne s'arrête jamais. Et puis parfois on peut avoir pour certains moments critiques une retranscription de ce qui s'est passé et là ça explose de partout. Donc ouais, c'est vraiment une guerre en continu, vraiment sous-jacente.
Quand on achète un antivirus, c'est bon pour un an, puis il est mis à jour.
Oui.
Et est-ce qu'un antivirus libre, hein, si je fais affaire, je trouve un antivirus libre, Est-ce qu'il est mis à jour aussi pendant la... Il est mis à jour régulièrement?
Typiquement, la communauté de développeurs, c'est une communauté qui est vivante et tout, devrait le mettre à jour régulièrement. Après ça, il faut voir des tests de performance là, entre les différents outils pour voir qu'elles fonctionnent. T'avais-tu un...
Oui, il faut dire que ce qu'on appelle la définition des virus, c'est-à-dire, c'est comme un peu les maladies là, que les gens peuvent attraper. Ouais. C'est pas juste les hôpitaux, c'est pas certains hôpitaux qui savent c'est quoi ces maladies-là. C'est vraiment connu à tous. Puis, c'est une même base de données ou une même répertoire que ces définitions sont. Les virus vont aller chercher ça. Donc, il y a un partage d'informations à un certain niveau là-dessus. Ouais. Pour la mise à jour, je veux dire, que le virus soit mis à jour ou non, c'est. On peut s'assurer que au moins les définitions des virus, les derniers virus qui viennent de sortir, que eux, c'est téléchargé de façon.
Facile. Oui. Donc, Facile va aussi mettre en ligne bientôt. C'est prévu pour la fin 2017. La première livraison de logiciels. Donc, en fait, ils ont comme. C'est parce qu'on est Québécois. On adapte les choses. Donc, le chaton de Framasoft devient le minou de Facile. Et puis, donc, c'est ça. Il va y avoir la première livraison de logiciels, édition collaborative, planification de rendez-vous, réseautage social, portail de recherche, cartographie, visioconférence, formulaire. Si vous allez sur le site de Facile, je crois que c'est facile.service au pluriel. C'est ça. De toute façon, si vous allez sur le site de Facile, vous pouvez télécharger ça. Ils font un truc cool, Facile. Ils vendent une petite clé USB à 20$, puis où il y a comme au moins une dizaine de livraisons de Linux. Donc, on peut vraiment juste mettre la clé USB dans son ordinateur, puis charger l'ordinateur avec le Linux de son choix juste pour l'essayer, voir si on aime ça. Puis après ça, on peut télécharger la version de Linux gratuitement sur le web. Voilà. Ça peut être intéressant d'essayer Linux comme ça en mode virtuel là, pour vraiment voir si on fonctionne. Puis étonnamment, c'est assez semblable à n'importe quel autre système d'exploitation. C'est vraiment pas, on rentre pas dans un univers complètement différent. Les codes sont un peu les mêmes, les trucs sont arrangés autrement. Puis, souvent, ce qui est cool avec un Linux, ben, c'est que tous les logiciels libres sont déjà inclus dedans. Ou sinon, on peut aller les télécharger facilement, puis c'est vraiment intégré comme ça.
Est-ce que tu parles de Ubuntu en particulier? Parce que Linux, il y a plein de distributions différentes.
Oui, c'est ça. Non, pas Ubuntu en particulier. Moi, comme à la maison, j'ai Mint, là, qui est comme une version d'Ubuntu, mais qui a fourché. Il y en a plusieurs. Donc, choisir la meilleure solution. Donc, comme je disais, je l'ai mis en majuscule. Identifier ses besoins. Okay? C'est vraiment la clé. Là. C'est ne pas sortir sur la nouvelle affaire qui flash. Là, puis dire, ah, c'est merveilleux, ça nous prend ça. C'est juste non. C'est quoi vraiment nos besoins? C'est quoi les tâches qu'on effectue? Puis pour lesquelles on aurait besoin comme d'un outil qui nous aide à mieux faire les choses. Tenir compte de son contexte. C'est pas exhaustif en plus, là, je veux dire, c'est juste un aide-mémoire, vous pouvez rajouter des choses là-dedans, j'ai pas la prétention de couvrir le sujet. Mais d'abord, l'expertise interne, donc c'est une bonne chose de savoir, OK, où en sont les gens un peu à l'interne pour savoir, d'abord, est-ce qu'on est capable de l'implanter soi-même, si c'est quelque chose d'un peu complexe. Après ça, quelle formation faudrait qu'on aille chercher pour pouvoir l'utiliser correctement, ou encore, quelle aide externe on a besoin d'aller chercher. Donc, corollaire de ça, c'est quoi notre budget? Donc, il y a toujours un budget à avoir pour une solution qui est un tant soit peu complexe. C'est sûr que si on fait juste télécharger LibreOffice, on pourrait avoir un budget pour ça nécessairement. Mais peut-être qu'il va falloir prévoir une ou deux séances de formation pour l'équipe. Donc, c'est vraiment prévoir la courbe d'appropriation. Je parlais de temps. Donc, ça peut être budget ou temps. Puis ensuite de ça, la sensibilité des données. Donc, est-ce qu'on, dans certains contextes, est-ce qu'on a des données qui sont sensibles? Puis après ça, c'est quoi la meilleure solution pour ça en termes de propriété des données, en termes de sécurité? Donc, il faut savoir, entre autres, quand on gère une plateforme libre, par exemple, il y a des plateformes d'info nuagiques qu'on peut faire rouler soi-même sur son propre serveur, mais là, ça demande quand même une certaine gestion. Puis au niveau de la sécurité, mais ça a des considérations. Il y a des considérations techniques à avoir. Là, ça prend quelqu'un qui comprend quand même assez bien toute cette question-là pour pouvoir faire en sorte que ça soit comme sécuritaire, comme on souhaite que ce le soit. Donc, quand je parlais des vertus de l'agnosticisme, c'était un peu de ça dont je parlais, là, de dire, OK, ça peut être, je veux dire, on peut arriver au constat de dire, OK, on trouve ça super le fun, les logiciels libres, mais dans notre contexte, vu nos ressources, ben il y a telle solution qui est propriétaire puis qui peut être très abordable, très bien faite. Puis pour nous, c'est la meilleure, puis c'est correct. Je veux dire, c'est pas, on n'a pas là, à être dogmatique par rapport au libre. Là. Moi, j'ai plus tendance à être pragmatique. Donc, c'est vraiment juste de dire, il existe ça, il y a des avantages à ça, il y a clairement, je pense, une communion de valeurs avec, par exemple, le milieu communautaire. Mais faut quand même rester pragmatique, c'est ma ligne. Puis voir qu'est-ce qui nous convient mieux